9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous. Ce qui est arrivé cette semaine, c'est d'abord une vague, un sursaut, peut-être le début d'un printemps algérien. Des dizaines de milliers de manifestants rassemblés pour dire non à Bouteflika hier et demander la chute du régime. En ligne, dans un instant depuis Alger, un opposant historique, Saïd Saadi, fondateur du RCD, deux fois candidat à la présidentielle. Il nous disait hier soir n'avoir jamais connu une telle ferveur politique depuis l'indépendance du pays en 62. Au générique, cette semaine, un philosophe, un entrepreneur et un chanteur. Le philosophe, c'est André Comte-Sponville qui nous parle de colères individuelles et de sentiments collectifs, des discours présidentiels, de démocratie directe ou du refus du hijab, des textes vieux de plusieurs années qui semblent avoir été écrits hier, à croire que l'actualité ne fait que se répéter. André Comte-Sponville avec nous dans un peu plus de 10 minutes. L'entrepreneur, c'est le fondateur de Made.com, Ning Li. Parcours stupéfiant, arrivé de Chine à 16 ans, sans un sou en poche et sans un mot de français. Il passe son bac l'année d'après, intègre HEC et monte sa première boîte. Aujourd'hui, après avoir cassé les prix des meubles design, il s'attaque aux cosmétiques avec l'ambition de bousculer le géant L'Oréal. Enfin, le musicien-chanteur s'appelle Antoine Salaire. Il publie un nouvel album et on sera très heureux de vous le faire connaître.
Merci, 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 merci.
De rien, Antoine Salaire. À tout à l'heure.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Patrick Cohen sur Europe 1.
La situation en Algérie donc, avec une figure de la vie politique algérienne, deux fois candidat à l'élection présidentielle, fondateur et ancien président du RCD, Rassemblement pour la Culture et la Démocratie. Bonjour Saïd Saadi.
Bonjour.
Vous nous appelez d'Alger. Racontez-nous d'abord la grande manifestation à laquelle vous avez participé hier. C'était... massif, c'était plus imposant encore que la semaine d'avant.
Oui, tout à fait. Je crois que sans préjuger de ce qui peut se passer par la suite, c'est véritablement historique par son ampleur et la nature même de la manifestation. J'ai assisté à de grandes manifestations à Algérie, même arrivé d'en organiser un certain nombre. Mais de cette nature-là, non, jamais. Le seul souvenir que j'ai et qu'on pourrait comparer à ce qui s'est passé ce 1er mai, c'est l'explosion de joie qui a suivi la déclaration de l'indépendance en 1962, avant que Boumediene ne fracasse tout ça avec son coup d'État.
Qui manifestait hier? Quels sont les profils que vous avez vus? C'était vraiment la jeunesse au premier rang, Saïd Saadi?
Ah oui, très majoritairement, c'était toute la jeunesse. C'était assez surprenant parce qu'il faut bien savoir que dans la vie politique algérienne, cette catégorie sociale a été particulièrement ciblée pendant des dizaines d'années par le système politique en place qui a voulu l'endoctriner, l'aliéner par l'école, la mosquée, les médias, pour en faire une espèce de somme d'individualité décérébrée, sectaire, intolérante. Et j'ai vu une belle jeunesse hier, tout à fait généreuse, disponible. Les slogans étaient très inventifs, très truculents, mais à aucun moment je n'ai vu d'obscénité. Et j'ai vu une jeunesse tout à fait solidaire, disponible, qui faisait le service d'ordre. Et pour vous donner une petite idée, après les manifestations, ce sont des escouades de jeunes garçons et de filles qui sont passés dans les grandes artères d'Alger pour ramasser les bouteilles d'eau et même les capsules de bombes lacrymogènes qui ont été envoyées à certains endroits par la police.
Oui, il y a eu des heures en fin de manifestations et de la répression à coups de grenades lacrymogènes, des blessés, peut-être un mort, mais vous diriez que les Algériens n'ont plus peur de manifester aujourd'hui?
Non, à part Alger, effectivement, des heures qui ont explosé lorsque la nuit est tombée, parce que la manifestation quand même s'est prolongée très tard dans la capitale, mais je n'ai pas eu de nouvelles d'autres incidents, parce qu'il faut bien savoir que les Algériens ont manifesté dans toutes les villes du pays, d'Alger à Tamanrasset, de la frontière tunisienne à la frontière marocaine. Pour vous donner une idée, dans ma région d'origine, en Kabylie, d'ailleurs, c'est l'équivalent de votre sous-préfecture, il y a eu 12 000 personnes qui ont manifesté dans la matinée. Alors, oui, je crois que nous sommes en train d'assister à quelque chose de tout à fait inédit. Maintenant, évidemment, il va falloir savoir de quoi tout cela sera-t-il fait à l'avenir dans les prochaines semaines.
Est-ce que les slogans ne se sont pas durcis? Ce qu'on nous rapporte, ce n'est plus seulement non au cinquième mandat, non à Bouteflika, mais aussi le peuple veut la chute du régime. Vous avez entendu cela, Saïd Saadi?
Ah oui, c'était même les slogans les plus dominants. Je crois que pour la majorité des manifestants, l'idée du cinquième mandat, c'est déjà un épiphénomène, c'est même pour ce que j'ai eu à en entendre quelque chose de dépassé, c'était la chute du régime, système des gages pour le changement, Algérie libre et démocratique, il y en a marre du pouvoir, etc., etc. La dominante, c'était ça.
Saïd Saadi, en ligne d'Alger avec nous. On vous retrouve dans quelques minutes. On va vous demander ce qui peut se passer maintenant. Quelle peut être la réaction du pouvoir algérien ?
Europe 1, 9h-10h, c'est arrivé cette semaine. Europe 1.
Jusqu'à 10h sur Europe 1, vous écoutez C'est arrivé cette semaine et c'est avec vous Patrick Cohen.
Avec Saïd Saadi, fondateur et ancien président du RCD, Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, en ligne d'Alger. Saïd Saadi, dans un texte que vous avez posté il y a 2 semaines, vous parliez de l'Algérie comme d'une réplique africaine du Venezuela. Que voulez-vous dire ?
Eh bien, nous sommes à peu près dans ces espèces de régimes despotiques qui sont arrivés au pouvoir à la faveur d'un coup d'État, qui sont adossés à une économie de rente et qui en disposent comme bon leur semble à travers des réseaux sectaires qui fonctionnent sur le mode mafieux. Alors c'est très embêtant sur le plan économique et social évidemment parce qu'il y a un détournement de la principale recherche du pays, mais c'est encore plus embêtant parce que ça finit par structurer, pervertir la relation sociale et la cité devient complètement aliénée par des humeurs des dirigeants. Il n'y a pas de perspective, il n'y a pas de vie publique, et je sais de quoi je parle, puisque ça fait par exemple plus de 15 ans que je n'ai pas pu dire un mot dans la télévision de mon pays, et la vie publique est parasitée par les réseaux souterrains. Au Venezuela, ce sont des clientèles qui gravitaient autour de Chavez et Maduro. Ici, maintenant, c'est la police politique qui, depuis l'indépendance, représente le cœur du pouvoir militaro-policier du pays et qui n'est soumis à absolument aucun contrôle, qui radie dans toutes les institutions, qui est la réalité du pouvoir, mais que personne ne voit. Et c'est bien de cela dont il s'agit aujourd'hui, il s'agit de dépasser cette confiscation de la volonté populaire.
Est-ce que ce pouvoir-là est divisé ? Est-ce qu'on voit des signes de tiraillement interne ? Vous parliez de la télévision il y a un instant, Saïd Saadi. La télévision d'État a montré, en ouverture de son journal hier soir, des images des manifestations pour la première fois. C'est un signe de quelque chose ?
C'est un signe de la contagion générale de l'insurrection citoyenne, parce que même dans la télévision d'État, que les Algériens appellent si ironiquement l'unique, des journalistes ont décidé de se libérer aussi de la contrainte professionnelle qu'ils subissent, de l'embrigadement éditorial qui leur était imposé depuis l'indépendance. Ils ont organisé des sit-ins, certaines répressions ont été décidées, mais ça n'a pas suffi à décourager le collectif rédactionnel et des journalistes en général. Et donc, même la télévision a dû céder, montrer timidement quelques images d'hommage, en tout cas en faire état, oui.
Ce qui tient aussi le pouvoir algérien, Saïd Saadi, c'est la menace islamiste, c'est le souvenir de la décennie de guerre civile qu'a connu votre pays, qui est agité en permanence comme une sorte de rayon paralysant pour tous ceux qui veulent contester le régime. En Syrie aussi, ça a commencé avec des roses, a dit il y a quelques jours le Premier ministre Ouyaïa. Est-ce qu'il y a un risque islamiste encore aujourd'hui ?
Bon, passons sur le pauvre Ouyaïa qui est rappelé épisodiquement pour faire le ménage du régime, pour aller au fond. Je ne crois pas du tout à la menace syrienne en Algérie. Dans les manifestations, beaucoup de slogans ont dit que l'Algérie n'est pas la Syrie. D'abord parce que l'Algérie est passée déjà par cette épreuve terrible dans les années 70. Bon, donc on sait ce que la tentation islamiste veut dire. Je crois que les islamistes eux-mêmes ont compris qu'il n'y avait pas intérêt à se montrer trop. Je n'ai pas entendu de slogan islamiste, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'ils ont disparu pour autant. Il me semble aussi, pour certains des dirigeants de cette mouvance, qu'ils ont compris qu'il fallait s'adapter, s'accommoder à l'évolution de la société algérienne. Alors évidemment, est-ce que tout cela ne va pas devenir éruptif dans un deuxième temps ? Ça dépendra de la mobilisation populaire, mais j'ai bien vu qu'il y avait une retenue dans l'expression islamiste à travers toutes ces manifestations. L'effet croque-mitaine islamiste ne joue plus.
Ça ne joue plus, dites-vous. Les heures qui viennent vont être cruciales parce que le dernier délai pour le dépôt d'une candidature présidentielle est fixé à demain minuit. Bouteflika n'a toujours pas déposé son dossier. Il est hospitalisé depuis dimanche dernier à Genève. Son retour à Alger n'a pas été annoncé. Vous pensez qu'il peut y avoir un coup de théâtre pour un non-dépôt de candidature de Bouteflika ?
Je le crois capable hein, de faire déposer un dossier par quelqu'un d'autre. De toute façon, la Constitution est déjà violée puisqu'il n'avait pas le droit de postuler un cinquième mandat au terme de la Constitution actuelle. Mais ce qui est remarquable, c'est que, et ça donne bien la nature du régime dont nous vivons, ce sont ces deux frères qui ont été le voir pour une chose quand même qui concerne le destin du pays, c'est la présidence de la République. Ce n'est ni l'ambassadeur, ni le ministère des Affaires étrangères qui ont été le voir pour savoir s'ils devaient se présenter ou pas. Alors, moi, je ne suis qu'une voix parmi d'autres, je n'ai aucune responsabilité organique dans mon pays, mais j'entends déjà des compromis, des consensus qui, à travers différents échanges entre certains partis politiques, certaines personnalités, qui parlent d'une phase de transition qui amènera évidemment la démission du Bouteflika et du gouvernement pour engager le pays sur de nouvelles perspectives. Il faut absolument faire de sorte que cette formidable énergie qui s'est libérée de façon pacifique mais déterminée ne soit pas neutralisée ni polluée cette fois-ci. Nous avons été dépossédés de la guerre de libération par des gens qui ne l'ont pas fait en 1960. Il faut espérer que cette fois-ci, les Algériens fassent preuve de la résolution qui leur a permis d'être exemplaires dans la décolonisation.
Merci beaucoup Saïd Saadi, ancien président et fondateur, je le rappelle, du RCD, deux fois candidat à la présidentielle algérienne. Merci d'avoir été en ligne depuis Alger.
Bonne journée à vous.
Europe 1.
Dans un instant, l'actualité de la semaine en France. Grand débat, gilets jaunes, discours présidentiel, peur du hijab, vu par le philosophe André Comte-Sponville.
Europe 1.
Chaque samedi de 9h à 10h, vous êtes avec Patrick Cohen. Vous écoutez cette arrivée cette semaine sur Europe 1.
André Comte-Sponville, bonjour.
Bonjour.
Philosophe, auteur entre autres de L'esprit de l'athéisme et d'un petit traité des grandes vertus. Vous avez cette vertu de mettre un peu de réflexion philosophique dans votre regard sur les événements. Voici donc chez Albin Michel, Contre la peur et cent autres propos, recueil de chroniques paru ces dernières années et qui pour beaucoup n'ont pas pris une ride parce que l'actualité est un éternel recommencement. Je me suis même pincé en lisant ce texte paru dans Challenge en février 2010 où il est question d'un président face aux souffrances et à la colère de quelques citoyens. C'était en l'occurrence Nicolas Sarkozy face aux Français dans une émission animée par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Et voici ce que vous écriviez. Qu'allait-il faire dans cette galère ? Comment le premier personnage de l'État pourrait-il affronter la souffrance de l'autre, son angoisse, sa colère, sa fragilité, quand il doit en même temps s'expliquer devant le peuple entier ? Comment mêler la compassion et la pédagogie, l'empathie et l'altitude, le dialogue personnel et le débat politique ? Ce genre de double contrainte rend fou, nous disent les psychiatres. Fin de citation. Nous y sommes à nouveau, André Comte-Sponville. Qui a été rendu fou par la séquence en cours ?
Une partie de la France, en partie les gilets jaunes, dans cette colère, il y a une part de colère justifiée, de souffrance, de détresse, mais il y a aussi une part déraisonnable, évidemment, exiger la démission du président de la République parce qu'on est 5000 dans la rue à Paris, c'est-à-dire presque rien. Moi, j'ai fait beaucoup de manifestations dans ma vie. Il est rare qu'on soit moins de 10 000 malgré tout. Vouloir à la fois baisser les impôts et augmenter les dépenses sociales, ce n'est pas raisonnable, vous voyez. Et donc, il y a quelque chose de déraisonnable dans la vie de notre pays, dans la vie politique de notre pays, qui s'installe et qui s'installe le plus souvent au nom de sentiments, d'affects, de souffrances, de colère, de haine de plus en plus. Et donc, je crois que le rôle d'un philosophe, ça n'est pas de rajouter de la colère à la colère, de l'émotion à l'émotion, de l'indignation, que sais-je. C'est d'essayer d'ajouter un peu de recul, un peu de sérénité, si possible un peu d'intelligence, parce que je crois que notre pays a besoin d'un peu plus de calme, d'un peu plus de raison et d'un peu moins de beaucoup moins de haine.
Dans cette séquence de 2010 et dans cette chronique, vous étiez déjà aussi dans la critique des médias. Toutes ces émissions de radio ou de télévision où l'on fait parler de vrais gens. Autrement dit, n'importe qui sur n'importe quoi, au lieu d'enquêter, d'informer, de commenter, tout ce déluge d'affects, écriviez-vous, et de bons sentiments, autant demander à nos psys de devenir journalistes. Vous écririez cela à nouveau aujourd'hui, André Comte-Sponville ? Est-ce que l'expression des gilets jaunes, même contradictoire, même désordonnée, n'a pas eu des vertus ces derniers mois ?
Non, mais je ne dis pas qu'il faut interdire aux vrais gens de parler à la radio ou à la télévision. Mais ce qui me gêne, au fond, c'est qu'il y a une espèce de prime au concret, comme on dit, au vécu, au terrain, ce qui tend à décrédibiliser toute parole d'un expert, d'un responsable, d'un dirigeant. Et donc, il est bon que tout le monde puisse s'exprimer. Mais comment voulez-vous qu'un président de la République, à l'époque, c'était Sarkozy, et je n'ai aucune sympathie ni politique ni personnelle pour lui, mais comment voulez-vous qu'il se sorte d'affaires devant la souffrance d'un chômeur, d'une femme au foyer qui élève seule ses enfants? Il y a une telle tension entre la quantité d'affect, de souffrance, de détresse d'un côté, et puis la responsabilité, la limitation des moyens de l'autre, que forcément, nos hommes politiques sont en difficulté. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, l'urgence, c'est de réhabiliter la politique. Et qu'on n'y parviendra pas en crachant perpétuellement sur ceux qui la font. Je me battais à l'époque contre l'anti-sarkozisme, qui faisait pour la gauche une espèce d'oreiller confortable et néfaste. Je me suis battu contre le Hollande bashing, il y a quelques années, et je me bats aussi bien aujourd'hui contre cette espèce de haine totalement déraisonnable contre le président Emmanuel Macron. Alors, il se trouve que politiquement, je suis plus proche de Hollande ou de Macron que de Sarkozy. Mais là, l'important n'est pas là. Ce n'est pas un livre pour défendre mes opinions. C'est un livre de philosophie, confronté à l'actualité, mais de philosophie. C'est un livre de réflexion. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, l'urgence est de réhabiliter la politique et cessons de reprocher perpétuellement aux hommes politiques de n'être pas toujours aussi proche du terrain qu'on le voudrait, parce qu'il y a un moment où la politique, ça suppose le recul, ça suppose la prise de décision, ça suppose le courage.
Réhabiliter la politique, l'esprit collectif, la démocratie représentative. C'est drôle parce que dans les phénomènes de l'époque, déjà, Sarkozy face aux Français, vous y voyez les prémices d'un rêve ou d'une volonté de démocratie directe, et vous écriviez déjà que c'était à vos yeux une caricature de démocratie. Et
oui,
cette revendication de démocratie directe est revenue en force dans le débat.
C'est le rêve populiste. Il y a d'ailleurs un article qui porte sur le populisme. Alors, oui. C'est quoi le populisme? C'est d'abord la prétention de parler au nom du peuple. Prétention absurde, parce que personne n'a le droit de parler au nom du peuple. Et surtout pas quand c'est un mouvement minoritaire. Ensuite, le populisme, c'est le mépris des élites et le mépris des étrangers. Plutôt des élites à gauche, plutôt des étrangers à droite, souvent les deux. Enfin, le populisme, c'est une prime accordée aux passions, et le plus souvent aux passions tristes, comme dirait Spinoza, la haine, la colère, l'envie, plutôt qu'à la raison. Et donc, je crois que la seule façon de combattre le populisme, or c'est une urgence aujourd'hui, parce que le populisme fait des ravages partout. Trump, le Brexit, l'extrême droite en France, combattre le populisme, c'est se battre pour la raison, c'est se battre pour les lumières. Je dirais que c'est le rôle premier d'un intellectuel.
Autre sujet, André Comte-Sponville, qui revient dans plusieurs de vos textes et qui a nourri l'actualité de la semaine, la laïcité, la religion, le voile islamique. Précisons d'abord ce que vous faites dans l'une de vos chroniques, que le débat sur le hijab tel qu'il a eu lieu cette semaine avec l'initiative de Décathlon n'a rien à voir avec la laïcité, ne peut pas être considéré comme une atteinte à la laïcité.
Non, parce que la laïcité n'interdit pas de manifester sa foi. Les catholiques peuvent faire une procession dans la rue, ça ne choque personne. Il n'est pas choquant en soi qu'un signe religieux soit publiquement affiché. Moi, ce qui me gêne dans le voile islamique, a fortiori dans le voile intégrable, c'est pas par rapport à la laïcité, c'est par rapport à la condition des femmes. Et évidemment, tout signe qui vise à manifester une soumission des femmes aux hommes ou une oppression des femmes par les hommes est évidemment insupportable. Et donc, le combat contre l'islamisme, évidemment, mais je dirais même pour ma part, le combat contre le voile islamique est un combat qu'on a le droit de mener. Mais ce n'est pas à la République de le faire. République, elle est laïque. La République n'a pas de position sur l'islam. Elle a des positions sur l'égalité homme-femme. Et donc, il faut mener un combat intransigeant pour défendre le principe même de cette égalité.
Vous avouez avoir horreur de la burqa et vous essayez de comprendre pourquoi. Vous essayez d'analyser vos propres... votre propre raisonnement, vos propres passions qui vous font détester la burqa, c'est au nom des principes que vous venez d'énoncer.
Oui, c'est au nom, à la fois, moi je suis athée, je respecte parfaitement la religion des autres, mais quand la religion s'impose avec une telle charge symbolique, si je veux dire, et surtout quand elle s'impose aux femmes, il est difficile de ne pas comparer la burqa à une espèce de prison que les femmes porteraient sur elles. Alors, en essayant de comprendre le point de vue des autres, je veux dire, en même temps, ça ressemble aussi au couvent. C'est la clôture. Il y a des jeunes femmes, des jeunes filles qui se sont enfermées à vie dans des couvents. Et aujourd'hui, ça se fait quand même de moins en moins. Et personne n'accepterait, évidemment, ce qui se faisait souvent au XVIIe siècle, qu'on enferme une jeune fille dans dans un couvent contre sa volonté. Or, on sait qu'aujourd'hui, certaines jeunes filles portent le voile ou la burqa volontairement, d'autres sous contrainte familiale ou sociétale. C'est évidemment inadmissible. Eh bien, se battre aujourd'hui pour les Lumières, c'est se battre aussi pour les libertés des femmes. Les libertés des femmes font partie, évidemment, des droits de l'homme.
Alors, on voit que tout cela, ce sont des débats sans fin, puisque ces textes remontent à plusieurs années. Ils se posent exactement dans les mêmes termes aujourd'hui. Les médias relancent, les journaux relancent ce genre de thème. On a aussi le débat sur les riches, hein, puisque à ce moment-là, il y a le procès du patron de Vinci. Et vous expliquez que les entreprises, le marché n'a pas de morale, mais que les chefs d'entreprise doivent avoir une morale. On pense évidemment à Carlos Ghosn. C'est pas un peu désespérant de revenir toujours avec les mêmes arguments et de remâcher l'actualité de cette façon, André
Comte-Sponville ? Non, parce qu'en fait, moi, ce qui m'amuse, ce qui m'intéresse, c'est de confronter les questions que nous pose l'actualité à 25 siècles de philosophie, finalement. Et ça crée une espèce de tension quand vous arrivez à confronter un texte d'Aristote ou de Spinoza à tel ou tel événement qui s'est passé la veille. Cette tension-là est stimulante pour la pensée. Et ce qui me réjouit, au fond, puisque ces textes sont étalés sur une dizaine d'années, c'est que, comme vous l'indiquiez, ils n'ont pas vieilli. Non pas que l'actualité soit restée la même, elle se répète parfois, mais parce que ce que j'essaie d'apporter, c'est un éclairage philosophique. Et fort heureusement, on ne change pas de philosophie tous les 10 ou 15 ans.
André Comte-Sponville, Contre la peur et 100 autres propos, cela paraît chez Albin Michel. Merci à vous.
Merci,
de nous
bonne
en
journée.
Europe 1.
Dans un instant, vous allez découvrir un entrepreneur exceptionnel, jeune homme né en Chine et qui lance en France, le pays qu'il a accueilli il y a 20 ans, un nouveau business dans le domaine des cosmétiques. Ning Li, le fondateur de Made.com, invité de C'est arrivé cette semaine.
Europe 1. C'est arrivé cette semaine continue jusqu'à 10h sur Europe 1 avec vous, Patrick Cohen.
Une histoire d'entreprise à présent avec un petit pousset qui a l'ambition de bousculer le secteur des cosmétiques et les mastodontes comme L'Oréal. Une histoire d'entreprise avec un entrepreneur hors du commun. Bonjour Ning Li.
Bonjour Patrick.
Je résume votre parcours en quelques phrases. Vous êtes né en Chine, dans un village du sud du pays. Vous arrivez en France, en Normandie, à 16 ans, sans parler un mot de français.
Tout à fait, oui. Tout à fait. Mes parents m'ont envoyé en France à l'âge de 16 ans. J'étais le premier membre de ma famille à arriver en France. Je suis arrivé ici et j'avais un dictionnaire franco-chinois que j'avais sur moi. C'était beaucoup de chance puisque il a fallu passer le bac. Je suis arrivé en première cette année-là, donc le bac français en fait, à la fin de l'année. J'ai dû apprendre tout le programme du bac français avec mon dictionnaire franco-chinois. Et à la fin de l'année, j'ai pu passer le bac français de toute justesse. Mais j'ai surtout surligné tout mon dictionnaire français. Voilà. C'est comme ça que j'ai appris la langue.
Et le bac tout court.
Le bac tout court.
L'année d'après, vous trouvez un job à Paris.
Voilà.
Chez un épicier chinois qui, pour financer vos études.
Oui. En fait, les études coûtaient très cher. Surtout, c'est pas cher en soi, mais pour mes parents qui vivent en Chine, qui gagnent des niveaux. Voilà, c'est une classe moyenne chinoise. La vie est très chère ici. Donc, j'ai dû trouver un job dans le quartier chinois. C'est le seul quartier où je peux trouver des gens à qui je peux parler.
Dans le 13e arrondissement.
Dans le 13e, voilà. Oui. Et c'était une pâtisserie chinoise. Je travaillais pour eux et ils me logeaient, ils m'aidaient pour tous les besoins de la vie. Et avec le temps, c'est devenu vraiment une sorte de famille d'accueil pour moi et des vrais amis aussi.
Et quand vous ne travaillez pas pour eux, vous faisiez une prépa? Puis HEC.
Voilà.
HEC, vous atterrissez dans une banque d'affaires, mais vous vous ennuyez.
Alors, j'ai fait surtout un stage chez Rothschild, ouais, qui est une excellente formation. Mais ça m'a permis surtout de comprendre que je suis quelqu'un qui aime la liberté. Et la banque, c'est vraiment le contraire de ce que j'ai cherché. Donc, ouais, ça m'a permis de comprendre ce que je ne voulais pas. Voilà.
Vous n'étiez pas fait pour ça. Vous contactez Marc Simoncini, le fondateur de Mythic. Vous devenez son assistant, en quelque sorte.
C'est ça. Dans le cursus de ma formation, on avait un stage bras droit. Donc, je suis allé en stage chez Marc à l'époque. Et ensuite, ça s'est converti avec une carrière plus longue.
Et vous fondez MyFab, site de e-commerce de vente événementielle. Premier succès. 2 ans plus tard, vous revendez vos parts au groupe Kering. Et vous partez en voyage?
Tout à fait. Je suis parti. J'ai compté voyager un petit peu pendant presque un an. Et à ce voyage-là, en fait, j'ai rencontré un de mes investisseurs et mes associés, du coup, dans Made.com, qui lui était à Londres. Il avait des bureaux là-bas, donc c'était parfait. C'est la raison pour laquelle j'ai quitté Paris pour Londres.
Ouais. Donc Made.com, entreprise qui a casser les prix du meuble design. Vous êtes présent aujourd'hui dans une dizaine de pays d'Europe, 500 employés, 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'histoire de départ, c'est un canapé qui vous faisait envie, c'est vrai ?
Oui, alors c'était vraiment une sorte de coïncidence. Je viens du sud de la Chine, un village que vous mentionnez, mais il se trouve que ce village-là produit aussi beaucoup de meubles. Et quand je suis sorti de cette aventure, ma première boîte, j'avais un peu de sous, je voulais m'acheter un canapé. Et il se trouve que c'était un canapé qui était en vente, je sais plus, 2 ou 3 000 euros dans un magasin.
Oui.
Et avant d'acheter, j'avais montré une photo à un ami avec qui j'ai grandi dans mon village qui fait ça.
Oui.
Il dit, mais...
Qui fabrique
non,
le canapé.
Voilà, qui fabrique le canapé. Il dit, mais non, il vendait à 200 dollars, lui, à quelqu'un qui revendait à quelqu'un. Il dit, mais achète chez moi. Donc, j'ai pu acheter vraiment pas cher, mais tout le monde n'a pas eu cette chance.
Oui.
Et je me suis dit, c'est quand même dingue, ce type de marge entre le prix de vente et le prix d'achat qui était à sortie d'usine. Et pourquoi je n'utiliserais pas Internet pour essayer de changer un peu tout ça.
D'où l'idée de vendre sans intermédiaire et à prix cassé. C'était il y a 10 ans. Hein,
c'était il y a presque 10 ans maintenant.
Made.com, ouais. Qui va rester basé à Londres malgré le Brexit.
Alors, avec Ning Li, le Brexit, on a créé un bureau ici à Paris.
Ah. Donc, voilà, aujourd'hui, Ning Li, vous voici donc de retour à Paris. Nouvelle aventure, une nouvelle marque de cosmétiques Typologie, pour laquelle vous avez réussi à lever 10 millions de dollars. Les produits sont là depuis quelques jours, disponibles en vente en ligne. Mais cette fois, c'est un secteur très encombré avec des gros morceaux solidement installés. Qu'est-ce qui vous motive ?
Alors, ce qui me motive en tant qu'entrepreneur, c'est d'arriver sur un secteur qui est probablement très gros, mais surtout assez opaque.
Qu'est-ce qui est opaque ?
Pour moi, ce qui m'a surtout frappé quand j'ai regardé ça de près, c'est les messages publicitaires. Vous savez, quand je me balade comme vous dans Paris, je vois partout les messages crème miracle, crème anti-âge qui vous fait rajeunir de 10 ans.
Oui.
Et je me suis dit, est-ce que je suis la seule personne à ne pas croire à ces messages-là ? Je suis le seul crétin ou il y a d'autres gens comme moi ? Et je demandais donc du coup autour de mes amis et surtout les générations un peu plus jeunes. Et je me rends compte en fait que les acheteurs ont beaucoup évolué, ont beaucoup changé. Ils sont devenus très sceptiques, mais les marques, surtout les grandes marques qui dominent un peu le marché, qui sont pourtant les meilleurs vendeurs du monde, n'ont pas évolué autant. Pour moi, ce qui nous motive pour Typologie en tout cas, c'est d'arriver avec un discours de transparence, à la fois sur ce que fait un produit, mais aussi ce que compose un produit. Parce que ce qui m'a aussi frappé, en tant qu'outsider qui vient de l'industrie, c'est que quand je regarde comment c'est fait un produit, on se dit, mais qu'est-ce que c'est tout ça que je suis en train de mettre sur moi ?
Alors, vous avez voulu donc supprimer un maximum de ces petites mentions sur les étiquettes. Sur le site de Typologie, à la rubrique ingrédients, on trouve d'abord votre blacklist, c'est-à-dire tous les ingrédients qui ne figurent pas dans vos produits, parabènes, phtalates, huiles minérales, formaldéhyde, silicone, une vingtaine de produits interdits qui ne figurent pas.
Oui, c'est-à-dire qu'on a la chance aujourd'hui de créer une marque nouvelle, entièrement de zéro, donc avec toutes les connaissances, mais aussi la précaution qu'on devrait prendre quand on crée une nouvelle marque. L'idée, c'est de supprimer un maximum d'ingrédients pour rendre les ingrédients plus sûrs, tout en étant, on espère, aussi efficace.
Votre pari, Ning Li, c'est la vente en ligne, mais là, il y a quand même des réticences. Les cosmétiques, c'est comme... Pour les parfums, les Français n'ont pas forcément envie d'acheter ça en dehors d'un magasin, sans voir le produit, sans le toucher, éventuellement le sentir.
Oh oui, mais avec le temps, 10 ans plus tard, maintenant, c'est devenu beaucoup plus évident. Et surtout pour les jeunes qui sont nés avec l'Internet, c'est beaucoup plus facile de convaincre à ces gens-là d'acheter directement en ligne, puisqu'ils résonnent mieux avec la marque. C'est plus pratique au bout du doigt d'acheter avec 2 clics, etc.
En tout cas, avec Typologie, vous avez de grandes ambitions ?
Ce qui nous motive, c'est surtout changer complètement un peu la façon de fonctionner. Taper très fort, taper très fort, et pour la bonne cause. Et pour ça, en fait, il faut un impact qui touche tout le monde. Ouais. Ça s'appelle Typologie, et on ne vend que sur typologie.com. parce qu'on a envie de toucher à tout type de peau, tout type de population, ce qui explique aussi nos prix de produits qui sont plutôt accessibles, et le prix qui fait partie un peu du mythe de l'industrie de soins qu'on veut aussi casser. Finalement, parce qu'un produit de soins, même de qualité, ne sort pas d'un labo à un prix que vous achetez sur le commerce pour ce qui devrait l'être.
Dans d'anciennes interviews, Ning Li, vous donniez le conseil aux start-upers de monter leur entreprise en Angleterre. C'est beaucoup plus facile qu'en France, disiez-vous. Ça a changé depuis?
Oui, alors, ma première boîte, je l'ai montée en France. Je l'ai montée dans le sentier, à l'époque où c'était encore un quartier de textile.
Naïfab.
Voilà, je suis revenu 10 ans après, mais maintenant, sentier, c'est plus un quartier de start-up que de textile. Donc, le monde a beaucoup bougé. Je trouve qu'il y a quand même un souffle, un vrai souffle d'innovation, d'entrepreneuriat en tout cas pour la France. C'est quand même du jour et nuit, même si on n'est pas encore, à vrai dire, au niveau de l'Angleterre, au niveau de financement et aussi au niveau de ce qu'on appelle les projets unicornes en termes de nombre.
Les licornes.
Les licornes, c'est ça. Je trouve que l'atmosphère a beaucoup, beaucoup évolué en France. On a plus de la chance aujourd'hui d'être en France d'aujourd'hui qu'il y a 10 ou 20 ans.
Merci beaucoup Ning Li et bonne chance à Typologie.
Typologie.com, voilà,
Typologie.
Avec un Y.
Merci à vous.
Merci Patrick.
Europe 1.
Dans un instant, un homme qui rend la vie plus belle parce qu'il fait des chansons et qu'elles sont jolies. Il s'appelle Antoine Salaire, je vais vous le présenter.
Europe 1. C'est arrivé cette semaine la suite. Vous écoutez jusqu'à 10h Patrick Cohen sur Europe 1.
Et voici à présent un artiste qu'on aime beaucoup. Il s'appelle Antoine Salaire. Il nous vient non pas du sud de la Chine, mais du sud de Montbéliard. Voilà plus de 10 ans qu'il est le complice de François Morel. Composition et accompagnement sur scène. Il a composé aussi pour Morane, Sophie Forte, Juliette Gréco, Juliette Toucourt. Il publie un troisième album avec 14 chansons et quelques interludes, des fantaisies d'une vingtaine de secondes qu'on peut facilement passer en intégralité à la radio.
Je suis triste de ne pas savoir pourquoi je suis triste de ne pas savoir pourquoi je suis triste de ne pas savoir pourquoi
tu es triste de ne pas savoir pourquoi tu es
triste
de ne pas savoir pourquoi tu es
triste
de ne pas savoir pourquoi.
Bonjour Antoine Salaire.
Bonjour Patrick.
Vous savez pourquoi depuis?
Toujours pas.
Vous savez pas pourquoi vous êtes triste. Mais l'album n'est pas triste.
Non, j'essaye.
D'abord, il est pop, il est acidulé, comme on dit, avec de très jolies harmonies et chœurs féminins.
Ouais. Hein,
c'était.
Oui, c'est un petit fil rouge du disque. J'ai essayé de faire qu'il y ait comme une espèce de seconde voix qui m'accompagne, qui parfois me questionne ou me répond dans les chansons. Donc ça pourrait être une voix intérieure, ça peut être une petite voix qui me dit « t'es sûr de ce que tu dis ?»
Ouais. Voilà. Avec un quatuor donc de voix féminine. On va écouter un extrait de votre album, une chanson qui parle de notre façon de consommer et de trop consommer.
Aubergine en janvier, clémentine en juillet et Noël au balcon. Des palmiers, des voyages, la terre est mon village. Des voitures, des avions, merci. Merci, mais demain, j'en voudrais un peu moins. Des smartphones à Noël, Saint-Valentin des dentelles, Halloween des bonbons, des shampoings, des chaussures, une vie pleine d'aventures et pleine de promotions. Merci, merci, mais demain, j'en voudrais un peu. Merci
Antoine Salaire. Je recommande aux auditeurs d'aller voir le clip qui accompagne cette chanson où des jeunes femmes vous gavent de toutes sortes de choses, de sorte qu'au bout du clip, on n'a plus faim de rien.
On n'a plus faim de rien parce qu'on en a eu trop, voilà, tout simplement.
On consomme trop, Antoine Salaire ?
Ah ben, alors, je ne suis pas un spécialiste, mais je pense qu'on est très nombreux à ressentir... je pense qu'il y a un mot qui est important pour moi dans la chanson, c'est la mélancolie. C'est-à-dire que j'aime pas donner de leçons et qui je serais pour ça, mais ce dont j'essaye de parler, c'est au-delà de la question de la surconsommation, ce sentiment des fois de mélancolie ou de tristesse qu'on a face à la surabondance. On n'en a pas besoin de tout ça et ça, peut-être que au-delà des problèmes écologiques, on serait mieux avec un peu moins.
Il y a de la mélancolie aussi quand vous évoquez un coin loin de Paris. Il faut prendre l'autoroute. C'est un coin de campagne, c'est une chanson qui nous fait rêver d'ailleurs.
Un grand terrain, quelques pommiers, les ruines d'un vieux moulin qu'on pourra retaper. On rêve
rêve d'ailleurs, d'ailleurs. On rêve. On rêve d'ailleurs, d'ailleurs. On rêve. On rêve d'ailleurs.
Vos influences, d'ailleurs. Antoine Salaire. Souchon, il est cité dans le, oui, dans, le, dans une chanson où ça vous dit Souchon dans l'interphone.
Oui, oui, bah Souchon, c'est quelqu'un que j'écoute encore beaucoup, que j'ai énormément écouté et qui, pour moi, est un peu le chef de file d'une écriture de chansons dans la ligne claire, qui cherche, qui travaille avec l'ellipse, les images très directes. J'essaye toujours de comparer l'écriture de la chanson aussi au dessin de presse, c'est-à-dire trouver un angle. Et avec un petit détail, dire beaucoup et laisser aux gens faire la fin du chemin. Et Souchon, je pense, est un des maîtres dans cette matière-là.
Absolument. Ouais. Parmi les thèmes qui traversent votre album, vos chansons, la tyrannie des réseaux sociaux, il y a plusieurs allusions.
Ouais.
Et puis, ça parle aussi de notre vie sur Internet.
Votre mot de passe doit comporter au moins un chiffre. Je suis désolé, ce mot de passe existe déjà. Veuillez répondre à l'une des questions ci-dessous. Nom de votre animal de compagnie. Plat préféré. Nom de jeune fille de votre mère. Veuillez recopier les caractères ci-dessous pour vérifier.
Prouvez-moi que vous n'êtes pas une machine, Antoine Salaire.
Bah, je viens de faire un disque.
Et alors, une machine ne pourra jamais faire un disque.
Si, si, j'ai lu des trucs là-dessus. Bah si, de toute façon, il y a un moment où on n'arrivera plus à le prouver, mais on se débat, on fait comme on peut, mais on y arrive.
Ça fait peur, effectivement. Ouais. Effectivement, quand une machine vous demande de prouver que vous n'êtes pas une machine.
Voilà, c'est ça, on s'est dit, mais attendez, mais qui me parle là?
Qui vous parle? On va en prendre un dernier pour la route, c'est une... petite fantaisie, une expérience live en quelque sorte, mais très évocatrice
très bien,
à l'oreille, qui n'est pas très concluante.
Je sens ta bouche pleine, ce sera une bonne idée. Je sens ta bouche pleine. C'est pas une bonne idée.
Non, c'est pas une bonne idée du tout de chanter la bouche pleine avec un papier, Antoine Salaire. D'où vient cette idée?
Il faut vraiment que je vous remercie. Je vais répondre à votre question, mais si j'avais pensé qu'un jour cette chanson passerait sur Europe, j'ai pensé que c'était la dernière qu'on passerait. Alors je vous remercie beaucoup pour votre courage.
C'est une fantaisie qu'on pourrait qualifier de morélienne.
Peut-être, oui, dans le sens. C'est-à-dire que peut-être qu'avec François Morel, je partage cet amour de l'humour navrant. Voilà, je ne suis pas ennemi des choses un peu désarmantes comme ça.
Non, mais l'humour navrant peut rester absolument diffusable s'il est bref. En tout cas, si ça ne se prolonge pas au-delà du raisonnable. Là, voilà, on a passé 20 secondes.
Là, on a fait 20 secondes, c'est déjà bien, on a compris.
20 secondes d'humour navrant. François Morel, que vous continuez à accompagner. Il y a eu l'aventure de Vos... au Théâtre du Rond-Point.
Oh, absolument, qui continue. Là, le spectacle est en tournée. Moi, je joue en alternance avec un camarade qui s'appelle Romain Lemire. Donc, on se partage les dates.
Voilà, on précise que c'est un hommage, un bel hommage à Raymond DeVos avec une reprise de quelques-uns de ses sketchs, mais aussi des ajouts actuels.
Des textes qu'on a un peu retravaillés pour les mettre en musique, justement, ou en chanson, ou en sous-texte musical. Et il va revenir à Paris. Fin d'année à La Scala pendant 2 mois. Et là, il est en tournée actuellement et je pense pour longtemps.
Voilà, La Scala, c'est la grande salle qui a ouvert il y a assez peu de temps sur boulevard de Strasbourg.
Boulevard de Strasbourg,
Tout près des grands boulevards. Et Antoine Salaire sur scène avec ses propres chansons, ce sera...
Ce sera au Théâtre des Déchargeurs à Paris du 28 mai au 1er juin, il y a une semaine, voilà. Et puis, on est en train de construire une tournée pour cet été, l'année prochaine.
Bon, et bien voilà. Merci Antoine Salaire. Nouvel album, donc, qui n'a pas de titre.
Non.
Non.
Vous... C'est moi, voilà. C'est mon nom. Allons-y.
C'est votre nom façon écriteau d'opticien, d'ophtalmologiste. Enfin, oui. Voilà, Antoine Salaire, évidemment. Merci d'être venu nous parler de cet album.
Merci.
Antoine Salaire.
Europe 1.
Ainsi s'achève C'est arrivé cette semaine, émission préparée par Marina Pruzès, réalisée par Sophie Mallier. Je vous retrouve demain 9h10 pour C'est arrivé demain avec d'autres actualités, d'autres invités. Dans moins de 5 minutes, ce sera Mediapolis. Bonjour Olivier Duhamel.
Bonjour Patrick Cohen.
Votre menu ce matin.
Ben figurez-vous, je connais le nom de mes invités. C'est le duo Choc, Nicolas Domnac, Maurice Safran qui nous parlons de Macron, mais pas que.
Mais pas que, Mediapolis avec vous. Excellente journée à l'écoute d'Europe 1.
Merci beaucoup Patrick Cohen. On vous retrouve demain dès 9h sur Europe 1.